chers auditeurs.
De la tête aux baskets, on porte tous une marque sur nous. Certains préfèrent des marques de sport, les autres de luxe.
Elles ont comme effet de montrer aux autres une partie de notre identité sociale. Alors, légitimement, on s'est posé cette question. Les marques sont-elles un marqueur social ?
Nous sommes Lucas, Julien et Corentin et allons tenter de vous éclairer sur le sujet.
L'habit fait-il le moine ?
Les codes vestimentaires ne sont plus les mêmes qu'avant.
Par contre, on peut distinguer les riches des pauvres à leur manière de s'habiller.
Et vous, cher auditeur, êtes-vous d'accord avec cela ? À l'heure où le pauvre s'habille comme le riche comme le pauvre, peut-on encore savoir à qui on a affaire sous les vêtements ?
Y a-t-il toujours eu cette tendance à copier, à s'habiller comme l'autre ?
Oui, car l'imitation est avec la distinction l'un de deux mécanismes fondamentaux de la mode. L'imitation permet aux individus de se sentir intégrés et remplis, une fonction importante de validation sociale.
Les vêtements et les marques trahissent notre origine sociale. Selon Frédéric Godard, professeur à l'INSEE, où il enseigne la théorie des réseaux sociaux et la psychosociologie des organisations. Aujourd'hui encore, le vêtement permet d'identifier l'origine sociale d'un individu, même si les différences vestimentaires entre classes ou groupes sociaux sont moins frappantes que par le passé du fait de la mode et de la diffusion rapide des tendances.
On l'oublie parfois, les vêtements ne sont pas que des accessoires de mode. Depuis les origines de l'humanité, ils ont eu pour fonction sociale essentielle d'indiquer d'une manière visible l'appartenance d'une personne, des personnes qui le portent à une tribu ou à un clan, si ce n'est pas même dans un certain cas, leur statut et leur rang social. De nos jours, il faut reconnaître qu'à chaque étape de la vie professionnelle, le vêtement joue toujours un rôle important, bien que les repères se soient un peu brouillés avec la démocratisation du jean. Certains effets où les accessoires restent spontanément associés à l'exercice d'une profession. Aujourd'hui encore, le vêtement permet d'identifier l'origine sociale d'un individu, même si les différences vestimentaires entre classes ou groupes sociaux sont moins frappantes que par le passé du fait de la massification de la mode et de la diffusion rapide des tendances.
Ainsi, alors que la mode rapide est un éclectisme esthétique de plus en plus généralisé, conduisent à des frontières sociales poreuses d'un point de vue stylistique. Tout le monde porte des jeans associés à divers styles vestimentaires, de la veste de costume à celle de survêtement. Les écarts de revenus génèrent toujours des différences visibles. Par exemple, dans le niveau de prix ou la qualité des vêtements portés. Certains portent des jeans H&M, d'autres des jeans diesel. Au-delà du vêtement cependant, l'identification sociale des individus est plus aisée à travers les comportements ou le langage qui sont issus de processus de socialisation plus durables. Le vêtement en Occident n'est plus le marqueur social principal qu'il a été ou est dans les sociétés traditionnelle ou au début de l'ère industrielle.
Les codes vestimentaires ont beaucoup changé. On se demande même s'ils ne sont pas inversés. Le pauvre s'habille comme le riche comme le pauvre.
Les codes vestimentaires sont devenus plus ambigus, si bien que certains ont pu dire qu'ils sont aujourd'hui plus que jamais sous-codés. La signification d'un vêtement dépend de plus en plus de son contexte. La célèbre collection Clochard de Galliano pour Dior en 2000 est un exemple parfait de la récupération d'un style issu de la misère sociale par le sommet de la pyramide de la mode.
Le cliché du bobo, un riche ayant l'air d'un pauvre, pour faire court, cristallise en France une certaine angoisse collective liée à cette ambiguïté de plus en plus présente dans des frontières sociales.
Si on comprend que le pauvre veuille s'habiller comme le riche, on comprend moins pourquoi le riche veut s'habiller comme le pauvre.
Il s'agit d'une dynamique de distinction. Les classes ou groupes sociaux les plus aisés doivent se distinguer des autres, surtout des classes moyennes. En adoptant des styles novateurs et inattendus, un style négligé ou populaire est un moyen souvent utilisé uniquement aujourd'hui pour atteindre cet objectif.
Dans un registre voisin, la vogue actuelle du normcore chez les hipsters est une illustration du mécanisme de distinction poussé à l'extrême. Pour être différent, soyons le plus normal possible. Notons que dans ce cas, la normalité est recherchée et que le normcore n'est normal qu'en surface. Accessoires et associations iconoclastes permettent aux hipsters de se reconnaître entre eux.
Y a-t-il toujours eu cette tendance à copier, à s'habiller comme l'autre ?
L'imitation est, avec la distinction, l'un de deux mécanismes fondamentaux de la mode. L'imitation permet aux individus de se sentir intégrés et remplit une fonction importante de la validation sociale.
Existe-t-il encore un code vestimentaire qui désigne la classe populaire moyenne supérieure ?
Dans une certaine mesure, oui. Mais ces différences vestimentaires doivent être comprises dans un ensemble qui inclut les comportements, le langage, les valeurs. Le vêtement n'est plus suffisant en lui-même. Il est devenu très ambigu. Même s'il est toujours sociologiquement lisible, ne serait-ce que parce qu'il traduit des différences de revenus et de capital.
Les différences sont les plus visibles dans les situations formelles. La classe supérieure maîtrisera mieux les codes complexes des contextes professionnels. Quel type d'accessoires, quel type de costumes ?
Dans le cadre informel, ce sont les marques et les logos qui feront souvent la différence. Si toutes les classes mélangent plusieurs niveaux de produits, certaines marques, Chanel, Hermès ou autres Omega, ne sont réellement accessibles qu'aux plus riches.
Par ailleurs, notons que pour qualifier l'appartenance à une classe sociale à travers le vêtement, il faut aussi prendre en compte les différences géographiques, politiques, religieuses.
Est-ce que le code vestimentaire ne se réduit pas aujourd'hui à la marque ?
Les marques sont un élément essentiel du vêtement aujourd'hui car elles valident les différences statutaires à style égal. En d'autres termes, Forever 21 ou Zara peuvent s'inspirer des styles de Chanel ou Dior. Il n'en reste pas moins qu'un regard avisé fera la différence. Par exemple, une qualité supérieure des matériaux et des finitions indiquera une marque plus prestigieuse. Dites-vous bien qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'habit ne fait pas le moine.